Bienvenue à la discussion le 5 février 2026, une date qui va sans doute rester dans les annales de la tech. À 9h45, heure du Pacifique, Anthropic lance son nouveau modèle Claude Opus 4.6. Et à 10h pile, OpenAI dégaine GPT-5.3 Codex. 15 minutes. C'est tout ce qui sépare ces deux lancements monumentaux.
15 minutes qui en disent très long. On nous vend une révolution technologique, mais ce qu'on a vu ce jour-là, c'est surtout le début d'une guerre ouverte, presque théâtrale. Ce n'est pas un hasard si tout ça arrive juste avant le Super Bowl, où Anthropic s'est offert une pub pour tacler OpenAI. Du coup, la vraie question, elle est là. Cette course effrénée à l'IA dite agentique, donc capable d'agir seule, est-ce que c'est une vraie avancée pour nous, ou juste le nouveau champ de bataille de quelques géants pour le contrôle du marché ?
De l'innovation. C'est une force qui met entre les mains des développeurs, des créateurs, des outils d'une puissance inimaginable il y a encore un an. Je pense vraiment que c'est une vague de fond extrêmement positive.
Et de mon côté, je vois les choses tout autrement. Je pense que cette rivalité nous précipite dans une direction dangereuse. Une direction où la vitesse, elle prime sur la prudence, où l'on risque de perdre en qualité, en authenticité, et au final en contrôle. Tout ça pour des parts de marché, quoi.
Entrons dans le vif du sujet alors, parce que ce ne sont pas de simples mises à jour. Il faut vraiment comprendre le saut qualitatif. Prenez GPT-5.3 Codex. Ce n'est plus un assistant qui vous suggère des lignes de code. Les documents d'OpenAI sont formels. Il peut désormais prendre un brief et construire de manière autonome une application ou un jeu vidéo complexe. Sur plusieurs jours, il gère le projet, il corrige ses propres erreurs, il déploie. C'est un changement de paradigme complet.
Un changement, oui. Mais est-ce qu'il est désirable ?
Attendez, ce n'est pas tout. De l'autre côté, vous avez Claude Opus 4.6, qui introduit ce qu'Anthropic appelle des équipes d'agents. Imaginez un peu. Plusieurs IA spécialisées qui collaborent pour analyser et restructurer une base de code de plusieurs millions de lignes. C'est une solution à un problème qui freinait des projets gigantesques. Et le gain, il est mesurable. OpenAI chiffre à 25% l'amélioration de la vitesse de GPT-5.3. Mais le plus fou, le truc vraiment fou, c'est que le modèle a été utilisé pour débugger son propre processus d'entraînement. Il s'est auto-amélioré, accélérant son propre développement. C'est une boucle de progrès, vertigineuse.
Vertigineuse ou incontrôlable, hein, on va y revenir.
Mais ce qui est fascinant, c'est que cette puissance n'est pas réservée aux géants de la tech. Elle infuse partout. Prenez le cas d'un créateur de contenu visuel. Des outils comme Photoroom, qui tournent sur des technologies similaires, permettent aujourd'hui à un artisan sur Etsy de produire des photos et même des vidéos de ses produits qui rivalisent avec celles des grandes marques. En quelques clics, il génère des arrière-plans, il met en scène virtuellement ses créations, il transforme une image fixe en une courte pub pour les réseaux sociaux. Les coûts de production s'effondrent. C'est une démocratisation sans précédent.
Outils plus puissants et moins chers. Mais je pense que cette vision ignore complètement les motivations et les conséquences réelles de cette course. Le fait qu'Anthropic ait sciemment rompu un accord de lancement coordonné juste pour grappiller 15 minutes de temps d'antenne, c'est un signal faible mais terrible. La priorité, ce n'est pas le progrès réfléchi, c'est de conquérir les clients entreprises avant le concurrent. Et cette obsession de l'efficacité automatisée, elle a un coût, notamment sur l'authenticité. Une étude sur l'e-commerce montrait déjà que 30% des retours produits sont dus à des visuels qui ne correspondent pas à la réalité. Une autre pointait que plus de la moitié des consommateurs perdent confiance face à des photos surretouchées. L'IA, qu'en optimisant à l'extrême un idéal visuel, va industrialiser cette déconnexion. On ne vend plus un produit, on vend un rendu parfait mais trompeur.
Mais l'alternative, c'est quoi ? Une photo mal éclairée, prise avec un smartphone ?
L'alternative, c'est le savoir-faire. Le talent d'un photographe qui sait comment la lumière caresse une matière, d'un styliste qui évite ce stylisme désordonné qui fait fuir le client. Ce sont des compétences nuancées, humaines. L'IA ne les remplace pas, elle les contourne. On risque d'aboutir à une grande uniformité, un bon goût algorithmique, efficace, oui, mais sans âme, sans aspérité. Et pour finir, cet aspect auto-améliorant que vous trouvez si fascinant, couplé à la classification de ces modèles comme haute capacité en cybersécurité, ça pose des questions de contrôle abyssales, bien au-delà des communiqués de presse rassurants d'OpenAI et Anthropic.
Vous parlez de contourner le savoir-faire, mais moi je vois plutôt une augmentation des capacités. C'est là notre désaccord fondamental. Ces outils ne remplacent pas la créativité humaine, ils la débarrassent de ses aspects les plus laborieux. Un développeur de jeux vidéo, il peut laisser Codex gérer toute la plomberie du code, la physique du moteur, les menus, pour se concentrer sur ce qui rend son jeu unique, le level design, la narration. Il ne perd pas son temps sur des tâches répétitives, quoi.
Vous dites qu'on libère le développeur, mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Ou est-ce que l'architecture même de son jeu n'est pas, au final, dictée par les capacités et les limites de l'outil? Il ne crée plus à partir d'une page blanche, il assemble des briques préformatées par l'IA.
Temps réel. Ce ne sont pas des boîtes noires qui vous livrent un produit fini. C'est un dialogue, une collaboration. Le créateur reste le chef d'orchestre. Un créateur de contenu qui utilise Photoroom, il ne clique pas juste sur un bouton. Il teste des dizaines de variations en quelques minutes. Il affine le prompt, il ajuste l'éclairage virtuel. Ce travail lui aurait pris des jours. Il peut donc passer ce temps gagné sur la stratégie, sur le message. C'est une assistance dynamique, pas une substitution.
J'entends l'argument de la collaboration, mais j'ai du mal à y croire. Quand des millions d'utilisateurs emploient les mêmes outils surpuissants, que ce soit Adobe Firefly ou les modèles de Photoroom, le résultat inévitable, c'est une homogénéisation visuelle. Les experts en marketing le martèlent. Pour exister, une marque doit se démarquer de ses concurrents avec une identité unique. Comment vous faites ça quand votre concurrent direct utilise exactement le même générateur d'arrière-plan que vous, avec les mêmes styles d'éclairage? Ces outils ne créent pas de nouveaux styles. Ils créent un consensus esthétique incroyablement efficace. On n'obtient pas 1 million de visions uniques, mais 1 million de variations sur le même thème. L'originalité se noie dans un océan de perfection générique.
Là, je ne suis plus d'accord. Votre raisonnement ne tient pas compte de la réalité de la plupart des petites boîtes. Pour elles, le choix n'est pas entre une photo de studio géniale et une photo IA. Le choix, c'est entre une photo médiocre prise dans un garage et une photo IA de qualité professionnelle. Vous critiquez l'homogénéisation, mais pour 99% des acteurs économiques, c'est une montée en gamme spectaculaire.
Et cette montée en gamme se fait au prix d'une nouvelle dépendance. C'est là que le piège se referme. Vous parlez de démocratisation, mais ce qu'on construit, c'est une dépendance systémique à une poignée de plateformes. Les petites entreprises sont maintenant captives de modèles de tarification opaques, basés sur des crédits qui fondent comme neige au soleil et des abonnements qui grimpent vite. Photoroom, pour reprendre cet exemple, a des forfaits qui dépassent les $80 par mois. Multipliez ça par le nombre d'outils IA nécessaires.
Attendez, $80 par mois, c'est à peine le tarif horaire d'un photographe professionnel. L'alternative, c'était un shooting photo à plusieurs milliers d'euros. Une somme inaccessible pour une start-up qui se lance. Ces outils ne créent pas une dépendance, ils font sauter des barrières à l'entrée. C'est ça la réalité. Un vendeur sur Amazon, il doit respecter des règles drastiques. Fond blanc pur, ombre réaliste. Avant, c'était un cauchemar technique. Aujourd'hui, avec ces outils, c'est l'affaire de 3 clics. On nivelle vraiment le terrain de jeu.
On ne le nivelle pas, on change simplement le propriétaire du terrain. Avant, vous payiez un artisan local, un photographe, vous investissiez dans une compétence humaine. Maintenant, vous payez une rente à une multinationale de la Silicon Valley. On ne fait que déplacer la valeur. On ne l'achète plus, on la loue. C'est un enfermement propriétaire. Vous ne possédez plus les outils, vous louez un accès à la chaîne de montage. Le jour où vous arrêtez de payer ou que l'entreprise change ses tarifs, votre capacité de production disparaît. Ça, ce n'est pas de la démocratisation, c'est du féodalisme numérique.
Je vous l'accorde, le modèle par abonnement a ses défauts. Mais le comparer à du féodalisme, c'est ignorer le gain de pouvoir phénoménal pour l'individu. Et cette vitesse que les outils apportent est révolutionnaire. Ce qui nous amène à notre 3e point, le plus fascinant.
Ou le plus inquiétant, cette vitesse que vous célébrez, c'est précisément là que réside le danger. Pensons à la source de cette accélération, le fait que le modèle s'améliore lui-même.
Mais c'est une avancée fondamentale. Ce que vous décrivez comme un danger, j'y vois une promesse incroyable. Le fait que GPT-5.3 Codex ait participé à son propre débogage signifie que le rythme de l'innovation va devenir exponentiel. Les bugs seront corrigés plus vite, les nouvelles fonctionnalités arriveront plus vite. On assiste à la naissance d'une nouvelle manière de faire de la R&D, une boucle vertueuse où l'outil améliore le créateur de l'outil. C'est une puissance qu'on met au service de notre propre progrès.
Je suis désolé, mais je n'achète tout simplement pas cette vision idyllique. C'est justement cette boucle de rétroaction qui est profondément préoccupante. Qui surveille la machine quand elle s'améliore elle-même à une vitesse qui dépasse notre entendement? Les entreprises nous parlent de leur cadre de préparation, de leurs mesures de sécurité, mais l'épisode du 5 février est la preuve que tout ça, c'est du marketing. La logique de compétition l'emporte sur le principe de précaution. On a vu un gentleman's agreement voler en éclats pour un avantage concurrentiel de 15 minutes. Quelle confiance peut-on avoir dans leurs promesses de sécurité à long terme quand ils sont incapables de se coordonner sur un simple horaire?
Vous mélangez une manœuvre marketing, certes agressive, et la sécurité fondamentale de la technologie. Les équipes qui travaillent sur la sécurité des modèles ne sont pas les mêmes que celles qui décident de l'heure d'un communiqué de presse. Les documents publiés détaillent des protocoles de tests rigoureux.
Vraiment? Est-ce que le risque est vraiment pris au sérieux? Ou est-ce que la peur de se faire doubler par le concurrent pousse à prendre des raccourcis? Cette course à la puissance, symbolisée par cette journée, nous fait déployer à l'échelle planétaire des technologies dont on ne maîtrise pas toutes les implications. Leur capacité d'auto-amélioration pourrait très bien dépasser notre capacité de supervision. Et ce n'est pas la pub d'Anthropic pendant le Super Bowl qui va me rassurer sur la maturité de cet écosystème. On est dans une cour de récréation avec des jouets extrêmement puissants.
Pour moi, les événements du 5 février ne sont pas le symptôme d'une course imprudente. C'est le signe d'une ère d'innovation extraordinairement dynamique, nourrie par une saine compétition. Les IA agentiques sont des multiplicateurs de force. Elles rendent la création plus rapide, plus abordable, plus accessible. Les défis de sécurité que vous soulevez sont réels, oui, mais ils sont gérables. Et les bénéfices en termes de productivité et de créativité sont tout simplement trop immenses pour être freinés par la peur.
Et moi, au contraire, j'y vois la confirmation que le moteur de cette course, c'est le marché. Point. En nous précipitant vers l'automatisation, on prend le risque de construire un écosystème créatif et technique homogène, fragile et dépendant. On sacrifie au passage des valeurs fondamentales comme l'authenticité et la confiance qui sont le socle de toute économie saine. Et on le fait en laissant les questions de contrôle les plus critiques sans réponse claire, cachées derrière un rideau de fumée de communication.
Il est clair que l'arrivée de ces agents IA marque un tournant. La question n'est plus de savoir s'il faut les utiliser, mais comment les intégrer au mieux. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre les gains d'efficacité qu'ils promettent et la nécessité de préserver l'ingéniosité et la touche humaine, qui resteront toujours essentielles.
En effet, et cet équilibre ne sera pas trouvé dans une course effrénée dictée par des lancements précipités, il exige au contraire une pause, une réflexion collective sur la valeur que nous accordons à l'authenticité, aux compétences humaines et au contrôle de ces technologies. Le débat ne fait que commencer, et les documents qui ont servi de base à notre discussion sont une excellente porte d'entrée pour quiconque souhaite le poursuivre.